Europe 1, la libre antenne,
Valérie Darmon.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la libre antenne sur Europe 1 jusqu'à minuit. Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Ainsi écrit Albert Camus. J'ajouterai que dans notre libre antenne, nous pouvons nous aider les uns les autres à dévisser, si ce n'est qu'un petit peu, le couvercle de nos illusions, de nos doutes, de nos peurs, de nos inquiétudes, et libérer ce qu'il y a à libérer, même un tout petit peu. Juste être courageux d'être soi, à commencer par moi, pour mieux recueillir vos témoignages et la phrase de votre vie. Cindy et Adrien sont toujours à mes côtés pour prendre vos appels au standard au 3921 et par SMS au 7-3921 et tapez nuit, sans oublier de nous laisser votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous joindre sur la page Facebook de l'émission ainsi que par mail à l'adresse libreantenne tout attaché @europe1.fr. Guillaume est toujours à la réalisation.
La libre antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Et nous ouvrons ce soir la libre antenne avec un jeune homme, Bastien. Bonsoir Bastien, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci à vous.
Alors vous n'êtes pas n'importe qui, visiblement, vu le peu d'informations que j'ai sur vous. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi.
On m'a parlé de revenir sur un événement qui a eu lieu il y a 15 jours. Avec quelques amis, on a traversé la Bretagne à vélo, donc de Rennes à Brest, pour récolter des dons contre la maladie d'Alzheimer.
Et comment vous est venue cette idée et pour quelle raison surtout?
Alors j'ai perdu mon grand-père l'année dernière donc à cause de cette maladie. Et comme je suis cycliste, j'ai vite eu l'idée de faire quelque chose pour lui rendre hommage surtout. Et puis pour lutter contre cette maladie qui est terrible pour tout le monde, hein, que ce soit la personne malade mais surtout l'entourage. Et donc étant cycliste, j'ai vite eu l'idée de traverser la Bretagne comme je suis breton et que c'est symbolique un petit peu de traverser notre belle région. Donc voilà.
Et votre grand-père aussi, il est breton, j'imagine?
Effectivement, oui. Lui, il habitait dans les Côtes d'Armor et moi dans le Morbihan. Donc on ne se voyait pas énormément, mais on était quand même assez proches. Et surtout, le vélo, ça permettait de se rapprocher quand il venait me voir sur les courses. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire ça en lien avec le vélo.
Alors quel âge vous avez, Bastien?
J'ai 22 ans.
Ah oui, et votre grand-père, quand il est parti? Quel âge il avait?
Il avait 82 ans.
D'accord. Et vous me dites, vous voyez peu, mais vous étiez assez proche. C'est-à-dire proche comment?
On s'avait régulièrement au téléphone. On s'appelait tous les 2-3 jours. Et puis dès qu'il pouvait, il venait me voir sur les courses de vélo. Moi, dès que je pouvais, j'allais le voir, lui et ma grand-mère.
Il était cycliste aussi, votre grand-père?
Non, pas du tout. Non.
Alors comment vous est venue cette idée quand même de se dire « Allez, je prends mon vélo et c'est quoi le parcours ?» C'est de chez lui à chez vous? C'est plusieurs tours de la Bretagne? Comment vous avez défini le parcours que vous avez fait?
En fait, je trouvais ça symbolique de traverser la Bretagne. Donc on était un petit groupe, on était 4 cyclistes avec quelques personnes pour nous suivre en voiture. Et on est parti donc de Rennes très tôt le matin à 5h30. Et on allait jusqu'à Brest où on est arrivé vers 21h, tout en passant du coup par les Côtes d'Armor pour passer là où habitait mon grand-père.
Et alors vous me dites que vous avez couru pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Alors comment ça s'est manifesté? Il y avait des points d'étape? Vous avez demandé, des dons? Comment ça se manifeste? Comment on fait le lien entre l'association, par exemple, ou cette cause, et puis le fait de prendre son vélo et d'aller pédaler pour son grand-père décédé?
Alors du coup, moi j'ai contacté l'association France Alzheimer, donc des Côtes d'Armor, mais il faut savoir du coup qu'il y a une branche par département, donc ils sont partout en France. Et en fait, ça s'est fait très naturellement, parce que moi j'avais déjà l'idée, eux ils étaient évidemment intéressés de mettre en avant aussi leur association et la maladie. Et donc à partir de ce moment-là, on a un petit peu dessiné le projet ensemble, et à peu près à un tiers du parcours, donc au niveau de l'Oudéac. Eux, ils nous ont organisé un repas sur l'heure de midi, puisqu'on arrivait à cet endroit-là aux alentours de 11h du matin. Donc, avec un départ à 5h30, on avait besoin de manger. Et donc, ils nous ont fait un repas à cet endroit-là. Et ils sont venus également donc à Calac, dans les Côtes-d'Armor, là où habitait mon grand-père, pour pareil faire un petit point d'étape. Et puis, on s'est arrêté faire un ravitaillement chez ma mamie.
Et qui vous a hébergé tous les quatre et avec tout le staff de l'association? Comment ça s'est passé?
Alors nous, les cyclistes qui sommes partis de Rennes, on a dormi la veille chez une amie qui nous suivait en voiture le lendemain et puis qui est photographe, donc qui a pris des belles photos toute la journée. Et après, il y a mes parents qui nous ont rejoints sur la route pour nous suivre également. Et sinon, l'association, eux, ils nous ont rejoints directement à l'Oudéac et après à Calac pour monter leur stand. Et sinon, chez ma mamie, on s'est retrouvés avec ceux qui étaient sur le vélo, les suiveurs, et l'association du coup qui était plutôt dans le centre-ville et avec qui on s'est arrêté aussi un petit moment.
Alors aujourd'hui, le vélo, c'est d'actualité. Hein. J'imagine que vous avez suivi le Tour de France.
Effectivement, sur notre antenne, ouais, là, on peut-être. J'ai regardé à la télé tranquillement dans mon canapé, mais j'aurais pu suivre sur votre antenne également.
Alors vous pédalez depuis combien de temps? Dites-moi, moi, faites du vélo depuis combien de temps vraiment?
Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais, que je fais du vélo. Un petit peu moins ces dernières années, mais j'en fais quand même pas mal. Et je suis licencié dans un club du Morbihan.
Votre grand-père, c'était votre premier fan?
Ouais, toujours. Enfin, toujours très content de venir voir ou d'écouter un petit peu les résultats. Et surtout, avec la maladie d'Alzheimer, les souvenirs de ses proches s'effaçaient petit à petit. Et ce qui lui restait en mémoire de moi, c'était que j'étais le cycliste. Donc, il se rappelait pas spécialement que j'étais son petit-fils ou quoi que ce soit, mais il savait que je faisais du vélo. Donc, c'est aussi ça qui m'a donné envie de lui rendre hommage sur le vélo.
Bien sûr. Alors, je rappelle qu'il y a environ 1 million de personnes touchées en France par cette maladie. D'ici 2050, le nombre de personnes touchées par une maladie neurocognitive devrait atteindre plus d'1 800 000 cas, ce qui représenterait 9,6% des plus de 65 ans. C'est beaucoup. Quel souvenir vous gardez de votre grand-père?
Moi, je trouve que ça a été quand même quelqu'un de très fort jusqu'au bout, parce qu'il était, donc, il était placé dans un établissement et il a toujours continué de se battre. Et pareil pour ma grand-mère hein, qui a vécu ça à ses côtés. Donc, un homme fort qui s'est battu jusqu'au bout.
Qui est une source d'inspiration pour vous?
Oui, en quelque sorte, parce que déjà, il a tenu une ferme pendant de nombreuses années, donc on sait que ce n'est pas des métiers très faciles. Mm-hmm. Et puis ensuite, la maladie qui a frappé, donc, c'est terrible. Et pourtant, ils ont continué de se battre tous les deux, et je trouve ça très beau et très inspirant.
C'était il y a combien de temps, la maladie?
La maladie, elle s'est déclarée en 2017 et elle l'a emportée en fin 2021, donc ça a été très rapide.
Alors, maintenant, c'est quoi le projet d'après? Parce que quand on a eu ce projet-là, combien de kilomètres, redites-moi?
Il y avait 320 kilomètres au total.
Ah oui, quand même, en une seule journée.
C'est ça, donc en partant tôt le matin et en essayant d'arriver pas trop tard à Brest, donc ça a été mission accomplie.
Et vous vous êtes entraîné beaucoup pour accomplir ce parcours?
Ouais, du coup, j'ai fait moins de compétitions que ce que j'avais prévu pour privilégier quand même les sorties un peu plus longues et essayer ouais, d'avoir du fond. Mais dans tous les cas, c'était une longue journée très, très dure.
Et vous en gardez quel souvenir?
C'était une super journée, donc difficile physiquement, mais non, c'était une super journée. Et puis, on avait du monde à nos côtés pour nous motiver, etc. Donc, une belle journée. Et puis, même l'association, je crois qu'ils sont contents qu'on ait pu mettre en avant la maladie et surtout les recherches et l'accompagnement qu'eux, ils peuvent apporter aux personnes et à leurs familles.
Et aux aidants, hein, effectivement, qui sont très souvent oubliés. Hein. Il faut y penser. Merci beaucoup, Bastien, de ce très joli témoignage en rapport avec le Tour de France. Donc, on est ravis de vous avoir eu sur l'antenne. Merci de nous avoir appelé ce soir en l'honneur de votre grand-père. Et d'ailleurs, on va lancer un disque. Et c'est un peu de son époque, vous allez reconnaître. Belle soirée à vous.
Merci, au revoir.
Moi, je vous propose d'oser nous appeler, en tout cas sur la libre antenne d'Europe 1, Yves Montand à bicyclette pour le papy de Bastien. Et si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1 dans la libre antenne, comme Bastien, n'hésitez pas à nous appeler au 3921 ou par SMS au 7-3921 et tapez nuit en nous laissant votre numéro de téléphone. Et enfin, l'adresse de la libre antenne tout attaché @europe1.fr. Nous sommes là pour vous.
Valérie Darmon vous écoute sur Europe 1.
Et j'accueille maintenant Gaëtan. Décidément, une libre antenne très masculine ce soir et jeune, car Gaëtan, vous êtes à peine plus vieux que Bastien, il me semble. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir Valérie, ben j'ai le même âge que Bastien, j'ai 22 ans.
Ah ben voilà, c'est une libre antenne jeune et masculine. Quel est l'objet de votre appel ce soir, s'il vous plaît ?
Oui, ben c'était un peu pour raconter mon parcours, parce que je suis autiste Asperger, et aussi comment je suis arrivée à la passion que j'ai pour la radio.
Ah très bien, alors déjà expliquez-nous ce que c'est que l'autisme Asperger, s'il vous plaît.
En fait, c'est une forme légère de l'autisme. Je suis un petit peu différent des autres pour certains points. Par exemple, j'ai du mal en fait à aller vers les jeunes de mon âge et j'ai tendance à aller plus vers des personnes un peu plus, je sais pas,
plus âgées.
Oui, un peu plus âgées, oui. Et oui, j'ai un peu de mal à aller vers des jeunes de mon âge. C'est une particularité que j'ai. Également, si je peux avoir du mal à faire des choses du quotidien, par exemple, pour faire mes lacets. Je mets que des baskets à scratch, par exemple.
D'accord. Vous arrivez à mettre en place des dérivatifs, c'est ça ?
Oui, exactement, oui.
Alors, vous me dites que vous fréquentez des gens un petit peu plus âgés que votre âge. Est-ce que c'est surtout des personnes un petit peu plus mûres ? Parce que je crois savoir que les personnes qui sont touchées par l'autisme Asperger sont plus intelligentes que la moyenne. C'est moi qui le dis, alors moi je peux le dire.
Oui, c'est des personnes un petit peu plus mûres. Parce que, par exemple, moi j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec des personnes avec des jeunes de mon âge. Par exemple, je me suis fait arnaquer plusieurs fois quand j'étais au lycée, et du coup, ça m'a un peu donné des mauvaises expériences.
Quand vous dites arnaquer ou harceler ?
Arnaquer, oui, parce qu'ils m'ont fait croire qu'ils étaient amis avec moi, et en fait, ils m'ont fait payer des Airbnb, des chambres d'hôtel et tout, et au final, en fait, c'était que pour se servir de mon argent, en fait.
Mm-hmm.
Alors, parce qu'ils ne voulaient pas le dépenser.
Alors racontez-moi, Gaëtan, si vous le souhaitez, comment on a découvert, par exemple, cette maladie ?
Ben on a découvert parce que j'étais encore petit et ma mère, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ben, par exemple, c'est ce qu'elle m'a raconté. J'avais tendance, par exemple, à pas trop aimer quand elle voulait me faire des câlins. Et puis, elle me trouvait un petit peu dans mon monde. Elle voyait que j'étais un peu, que je voulais pas trop aller vers elle. Et du coup, elle m'a fait passer des tests avec déjà des psychologues et tout. Et en fait, dans le Var, à l'époque, personne connaissait trop les Asperger.
Mmh.
Et du coup, on nous a rien dit de particulier. Sauf qu'après, ma mère, elle a continué à chercher et elle a vu qu'il y avait à Marseille le centre de ressources autistiques tenu par le professeur Dafonseca. Elle a pris rendez-vous, elle m'a fait faire une semaine de test et c'est là que j'ai été diagnostiquée autiste Asperger.
Alors Gaëtan, je vous propose de faire une petite pause, mais surtout, vous restez avec nous parce que Guillaume me fait signe qu'il faut faire une petite pause maintenant et j'écoute toujours notre réalisateur. À tout de suite Gaëtan.
À tout de suite.
Vous aussi, laissez vos messages à Valérie Darmon au 7 39 21 75 centimes plus coût du SMS.
Merci Gaëtan d'avoir patienté un petit peu.
Oui, il n'y a pas de souci.
Vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous êtes à Marseille avec ce professeur ?
J'avais à peu près 4 ou 5 ans, oui.
Alors vous avez une maman qui a été tenace, hein ?
Oui, elle a été très tenace, oui. Parce qu'à l'époque aussi, quand j'étais petit, je faisais aussi beaucoup de crises. Il y avait des choses que j'avais du mal à supporter, comme la frustration, par exemple.
Mmh. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la frustration, en fait. Hein.
Oui, c'est ça, oui.
Et quoi d'autre, par exemple ? Qu'est-ce que vous ne supportiez pas dans votre souvenir ?
Par exemple, j'ai une sœur et par exemple, il suffisait qu'on regarde un film et qu'elle fasse un mouvement et ça aussi, je ne supportais pas, par exemple.
Mm-hmm.
Oui, je ne supportais pas beaucoup de choses quand j'étais petit. Et aussi, j'avais tendance à monopoliser aussi les gens autour de moi.
L'attention.
Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai été diagnostiqué là quand j'avais 4 ou 5 ans. Et donc, ma mère, elle a quand même, on a quand même essayé aussi, on avait quand même essayé que j'aille à la maternelle aussi. Sauf que ça s'est mal passé là-bas. Parce que du coup, les instituteurs, en fait, ils n'arrivaient pas à me gérer. Parce que, par exemple, quand il y avait des exercices ou quoi pour l'alarme incendie, j'avais peur. Des fois, j'avais peur d'aller en récréation aussi.
Parce que vous aviez
Et
peur des autres, c'est pour ça, ou peur du groupe?
oui, peur du groupe, c'est surtout ça, oui. Et du coup, ma mère, elle a trouvé un hôpital de jour et je suis allé en hôpital de jour. Du coup, je suis resté un an, même 2 ans en hôpital de jour. Et puis après, elle a voulu faire une expérience, ma mère, et elle m'a inscrit à l'école, dans une petite école, elle a trouvé à Cuers, une école bilingue de provençal, où il y avait, dans toute l'école, il y avait 60 élèves en tout. Du coup, on a négocié avec l'école et avec l'hôpital de jour que je fasse un mi-temps à la fois à l'école et à la fois en hôpital de jour. Au début, c'était pas simple, mais petit à petit, j'ai réussi à aller de plus en plus à l'école et après plus en hôpital de jour.
Donc petit à petit, vous vous êtes
Oui.
adapté petit à petit.
Oui, c'est ça, en continuant donc à l'hôpital de jour, j'y allais surtout après pour voir la psychologue.
Vous avez des souvenirs de cette période?
Oui, j'ai quelques souvenirs, oui. Oui, j'ai quelques souvenirs. C'était assez compliqué. Je me rappelle certains trucs, mais sinon, ben après, je me rappelle que je m'en suis après sorti à l'école.
Et plus que les autres, j'imagine, non? Parce que c'est souvent le cas. Vous mémorisez plus que
Oui.
les autres.
Oui. Je mémorisais, oui, mais pas les mathématiques. C'est la matière qui m'a le plus embêté.
Oui, alors,
Et l'anglais aussi.
oui, bah je vous comprends, hein, en tout cas pour les
Ah oui.
mathématiques. Hein, ça vraiment, moi j'étais phobique des mathématiques.
Ah oui.
Donc.
Et oui, l'anglais aussi. Et après, du coup, quand je suis arrivé vers le CE2, à la fin du CE2, j'ai demandé à ma mère de quitter la petite école parce que il y avait une institutrice en fait qui n'était pas très bien formée pour tous les enfants en général. Et du coup, elle criait beaucoup et moi, ça me faisait assez peur. Et ma mère, elle a dit que du coup, la seule école qu'il y avait, c'était à Pierrefeu-du-Var. C'était une école classique, en fait.
Donc on vous a remis dans
Oui,
un système scolaire tout à fait normal en fait.
c'est ça. Mais la condition pour l'école, c'était que j'ai un suivi avec un psychiatre. Du coup, on a mis en place un suivi. C'était toutes les semaines. Mais après, ça s'est très bien passé à l'école.
Du coup, vous vous êtes
Ah oui.
complètement adapté, ou le système
Ah oui,
scolaire s'est
je me.
peut-être adapté à vous aussi, on peut parler dans les deux
Oui,
sens, hein.
parce qu'on a expliqué aux autres aussi ma problématique. Oui, on a expliqué ça aux autres élèves. Mais sinon, oui, ça s'est très bien passé parce qu'en plus, on m'avait mis en place une auxiliaire de vie scolaire qui m'aidait un petit peu pour quand je comprenais pas en cours ou quand c'était un peu trop dur pour moi, elle m'aidait. Je me rappelle.
Et ensuite, vous avez suivi une scolarité normale au collège et au lycée? Comment ça s'est
Oui,
passé?
alors j'ai suivi une scolarité normale au collège, sauf que là après, ma maman a trouvé parce que mes parents ils sont séparés en fait. J'ai eu plusieurs beaux-pères. Elle s'est mise en couple avec un et en fait ça s'est mal passé avec lui parce que c'était un pervers narcissique. Oui, qui a été pas du tout sympa, ni avec moi, ni avec ma sœur. Du coup, on n'a pas pu rester chez notre maman et on est allé vivre chez notre papa parce que ça s'est mal terminé avec le beau-père. Ça s'est terminé. Par exemple, moi, j'avais fini à l'hôpital parce que je lui ai dit ce que je supportais pas chez lui et du coup, il n'a pas aimé. Il m'a étranglé et ma
Ah
sœur,
oui.
oui, c'est ça. Et
Oh
ma
non.
sœur, elle s'en est mêlée et du coup, ça s'est terminé à l'hôpital.
Ah oui, quand même.
Oui.
Est-ce que vous êtes plus sensible que la moyenne à tout ce qui vous entoure, Gaëtan?
Oui, peut-être au bruit. Oui,
D'accord.
surtout au bruit et à l'agitation aussi.
D'accord, donc un milieu effectivement familial tendu, douloureux, etc.,
Oui.
c'est amplifié chez vous, ça fait caisse de résonance.
Oui, c'est ça, oui. Et à chaque fois, j'ai énormément peur des personnes qui crient.
Oui, en même
Et
temps,
oui.
franchement, quels sont vos principaux besoins? Parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien, hein, même très bien. C'est peut-être
Oui.
seulement une impression, je ne sais pas. Vous connaissez bien?
Non, non, mais je connais assez bien depuis. Hein, ben mes principaux besoins, c'est d'être dans un environnement serein et calme.
Et vos
C'est surtout ça.
principales ressources?
Oui, ma principale ressource, c'est la radio, d'écouter la radio.
Alors, justement, cette
Oui.
passion. Alors, je crois que les autistes Asperger ont parfois soit un intérêt, vraiment un désintérêt pour certaines choses, vraiment, totalement. Vous nous
Oui,
avez parlé de
ben moi
l'anglais
j'en
ou des maths, et
oui.
des passions exacerbées pour d'autres choses.
Oui, parce que moi
Voilà.
j'en ai eu plusieurs de passions.
Dites-moi.
D'abord, c'était d'aller voir les postes dans les voitures. Ensuite, ça a été aussi pendant un moment d'aller voir tous les clochers et les églises. Et après, du coup, ça a été la radio parce qu'en fait, quand j'étais dans l'école provençale à Cuers, il y a une animatrice qui est venue faire un reportage. Et du coup, j'ai commencé à aimer la radio à partir de ce moment-là.
Et en même temps, vous alliez quand même voir les postes de radio dans les voitures avant. Donc,
Non, 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 oui, c'est
il y
ça,
avait
oui.
peut-être un appel déjà, hein,
Oui,
entre.
peut-être, oui, il y avait peut-être un appel, je sais pas du tout,
C'est
oui,
ça.
mais
Parce
oui.
qu'entre-temps, vous êtes passé par les églises. Bon, ça, c'est peut-être un appel du divin, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, avant,
Oui.
il y avait quand même les postes de radio. Qu'est-ce qui vous attirait, si vous pouvez l'exprimer, je ne sais pas, dans cette curiosité par rapport aux postes de radio dans les voitures?
Non, je sais pas comment ça se fait que ça me plaisait beaucoup d'aller regarder la marque du poste, tout ça. Les différents postes qui pouvaient exister.
Et les allumer ou pas pour écouter les
Non, 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 non,
radios,
non,
tout
non,
ça?
non, non,
Non, non, juste regarder les postes
oui,
qui étaient
juste
dans les
regarder.
voitures.
Oui, c'est ça. Oui.
Comment vous définiriez votre monde intérieur? Est-ce qu'il est particulier?
Oui, ben
Vous avez un
peut-être.
regard singulier sur les choses?
Oui, ben c'est peut-être un monde un peu atypique. Un peu un monde, je sais pas, un peu, c'est un monde un petit peu spécial dans lequel je suis.
Ouais. Vous pouvez nous le décrire un petit peu?
Comment ça, en fait, que
Nous,
mais je sais pas,
nous.
des fois, je peux avoir du mal à comprendre, à bien comprendre. Les gens, quand ils parlent autour, mais j'ai fait quand même des progrès par rapport à ça. Maintenant, j'arrive par exemple aussi à regarder quelqu'un quand on me parle dans les yeux, à regarder dans les yeux quand on parle. Il y a beaucoup, par exemple, je comprends un peu l'humour maintenant, alors qu'avant, je comprenais pas du tout.
Et alors, pour revenir à la radio, ça
Oui.
reste une passion ou vous en avez fait un métier ou un
Non, 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 j'en ai
hobby?
pas fait de métier, ça reste une passion, oui, je suis bénévole d'ailleurs en radio. Oui.
Ah, donc ça veut dire que vous faites une émission dans une radio en tant que
Je m'occupe
bénévole?
plutôt de la régie.
D'accord, donc plutôt du côté
Oui.
technique, en fait,
C'est
hein,
ça,
de
oui,
la
du
radio.
côté technique,
Qu'est-ce
oui.
qui vous a autant passionné dans la radio? Alors là, vous prêchez évidemment des convaincus ici à Europe 1, hein. On est là depuis très longtemps et
Oui.
on en fait depuis très très longtemps. Mais qu'est-ce qui
Oui.
vous a passionné dans la radio,
Mais
Gaëtan?
ce qui m'a passionné, ben, au début, c'était l'animation. Mais puis petit à petit, ben, ce qui m'a passionné, c'est de voir tous les boutons et tout qu'il y avait. Et du coup, je me suis dit que c'était plutôt le côté technique qui m'intéressait. Et à un moment, si c'était d'être au standard aussi que ça m'intéressait, mais là, c'est vraiment plus le côté technique.
Alors le standard, c'est être en lien avec les autres. Hein.
Oui.
Là, c'est pas Cindy et Adrien
Oui.
qui vont me démentir. Hein. C'est vraiment le
Oui.
lien à l'autre. Hein. En même temps, on est protégé, on est derrière un téléphone.
Oui, c'est ça, oui. Après, c'est surtout quand j'ai des personnes en face. Oui. Que c'est un peu plus compliqué. Quand Oui, parce que c'est un petit peu aussi timide.
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est une manière aussi de vaincre sa timidité. Hein.
Oui, mais après, par, oui, mais par exemple, là, j'ai dû, ben, je m'en suis rendu compte quand, début juin, je suis venu à Paris un peu pour faire le tour des radios et je suis passé dans une grande émission sur une radio nationale.
Si elle est
Du coup,
concurrente, vous ne la citez pas. Hein. Si elle est concurrente,
oui.
vous ne citez que la nôtre. Hein.
Oui. Et du coup, en fait, j'ai dû faire une chronique en direct et j'avais 5 personnes autour de la table et en fait, je me suis rendu compte comme quoi ça pouvait être stressant un petit peu de faire ça.
Ah oui, je vous confirme.
Ah
Je vous
oui.
confirme. Et vous avez traité de quel sujet alors? Pour votre
Ben de
première
l'autisme,
fois,
justement.
justement de l'autisme, effectivement.
Oui.
C'est une belle victoire pour vous et aussi peut-être une belle fierté, non, j'imagine, de prendre
Oui,
l'antenne comme ça sur une radio nationale.
c'était une fierté. Après, puis après, je me disais, mais est-ce que j'ai été bien et tout? Et je me suis réécouté. En fait, oui, j'ai été bien. Mais j'ai quand même demandé à ma tante qui m'avait écouté ce qu'elle en avait pensé. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré d'émotion.
Ben oui, j'imagine.
Oui.
Et votre maman est toujours parmi nous? Alors
Oui,
elle
elle
a
est.
dû être,
Ah
ça a dû être un grand, des
oui, elle
battements de
était vraiment très
cœur.
contente, oui. Oui. Mais après, ma mère, maintenant, elle est un peu moins proche de. On est un peu moins proche parce que maintenant, j'ai beaucoup évolué. Et. Mais du coup, je vis toujours chez elle. Parce qu'avant, j'étais. Elle m'a laissé faire une expérience. Elle m'avait dit que ça se passerait mal. Et en fait, elle n'a pas eu tort. Je suis allé habiter chez ma grand-mère, en fait. Mais quand même, ma grand-mère, elle est un petit peu spéciale. Et ben, du coup, là, j'ai réussi à tenir quand même 4 ans. Et là, récemment, ça s'est mal terminé avec ma grand-mère parce qu'elle a dit qu'on avait trop d'écart générationnel. Et du coup, elle m'a mis à la porte et je suis retourné là chez ma mère. Et du coup, on recommence avec ma mère petit à petit à se retrouver.
En tout cas, à chaque fois que vous parlez de votre maman, vous me dites,
Oui.
elle tente des expériences. C'est une maman aventurière, hein? Elle donne
Oui,
envie. En tout
oui.
cas, on a envie de la rencontrer, votre maman.
Oui, mais elle est très sympathique, même. Oui.
On a l'impression
Elle fait beaucoup
qu'elle
de. Elle a.
repousse les murs.
Oui, elle a beaucoup. Elle fait beaucoup de choses pour moi, oui. Et ma tante aussi, du côté de chez ma maman, oui. Parce que quand j'étais chez mon père, parce que quand à un moment j'ai été vivre chez mon père, après ça n'a pas été simple parce que il nous avait jamais élevés avec ma sœur tout seul. Du coup, ça n'a pas été très simple. Et comme à ce moment-là, ma mère, elle était aussi avec le pervers narcissique,
Oui.
on a trouvé que la solution la mieux adaptée pour moi, c'était d'aller dans un institut médico-éducatif. Et là, il y avait ma tante qui y travaillait.
Ça, c'était bien.
Ah,
Vous
oui,
connaissiez
c'était bien.
quelqu'un, là, pour le
Ah,
coup.
oui, en sachant que ma tante, elle a tout fait pour que je reste dans l'institut médico-éducatif, mais le moins possible, et que je puisse suivre une scolarité normale.
Ce que vous avez fait, hein.
Oui, du coup, j'ai pu aller terminer le collège normalement, et j'étais le seul, en fait, de l'IME à aller au collège, et j'ai même pu faire le lycée normalement, et j'ai eu le CAP commerce.
Ah oui.
Oui.
Alors du coup, aujourd'hui, vous êtes commercial ou vous avez complètement changé
Oui, ben je
Oui.
travaillais, je serais présent dans un supermarché, ben du côté de chez ma grand-mère à Grasse. Sauf que du coup, comme ça s'est mal terminé là avec ma grand-mère, et ben j'ai dû arrêter dans ce supermarché. Là, je suis à la recherche d'un nouveau patron qui voudrait bien me prendre.
D'accord. Bah alors, dites-nous dans quelle région vous êtes et dans quelle ville, comme ça on va
Oui.
lancer un appel, hein,
Oui,
si
ben je suis
quelqu'un
du
nous
côté.
écoute.
Oui, je suis du côté de Pierrefeu-du-Var.
D'accord. Belle
Oui.
région. Vous n'avez pas trop l'accent du sud, hein?
Oui, je sais, mais sinon je suis né à Grasse et j'ai fait une grande partie de ma vie à Grasse.
Et est-ce que vous avez des amis aujourd'hui, il y a étant?
Ben, pas beaucoup, non. Non. Ben après, j'en ai un peu dans la radio, mais sinon, non, j'en ai pas beaucoup.
Pas beaucoup. En même temps, dans la vie, on a assez peu d'amis de toute façon,
Oui.
hein, en général. Alors, la radio, ça représente quoi? Combien d'heures? Vous me dites, c'est une passion
Oui, ben,
et
par
on
exemple,
l'entend, hein.
là, pour le dernier travail que j'avais demandé à avoir tous les lundis de faire en fait un peu moins d'heures et d'avoir tous les lundis parce que c'est ce jour-là qu'ils ont besoin de moi à la radio.
Donc tous les lundis, vous êtes à la radio. Et le reste du temps, vous écoutez la radio, combien d'heures par jour peut-être?
Pratiquement toute la journée. Je regarde quasiment pas la télé, je regarde qu'une série à la télé et c'est tout. Après, j'écoute la radio toute la journée presque.
Ah oui, alors vous aimez quoi? Qu'est-ce que vous aimez le plus, à part la libre antenne?
Oui, bah, j'aime bien Ondelat.
Oui.
Oui, d'ailleurs, c'est bien que ce soit diffusé le soir après la libre antenne.
Oui, c'est bah oui, la grille, elle est bien faite.
Soit j'écoute le soir ou soit j'écoute l'après-midi. Et j'aime bien aussi la matinale.
Oui.
Avec Thierry Dagiral. Ou...
Ah bah, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque j'y participe tous les week-ends avec Roland Pérez pour la chronique et pour la météo, surtout sur l'antenne d'Europe 1. Un grand merci.
J'aimais bien l'émission avec Émilie Mazoyer quand elle était là de musique.
Oui, effectivement.
C'est grâce à cette émission que j'ai découvert Europe 1.
Bah écoutez, un grand merci. Un grand merci de votre témoignage, de nous parler avec autant de gentillesse, de bienveillance, de l'autisme Asperger. Merci beaucoup. Je suis très, très heureuse et très touchée que vous ayez témoigné ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Et je
vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Gaëtan. J'espère que vous avez trouvé un travail. Merci beaucoup.
Oui, j'espère aussi. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
I have a dream d'Abba sur l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Et j'accueille Pierre pour la phrase de ce soir. Bonsoir Pierre, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors je vous remercie d'avoir eu envie de nous contacter et surtout de l'avoir fait. Vous allez nous donner dans un instant votre phrase qui a un lien évidemment avec I have a dream d'Abba. Je vous écoute. Quelle est votre phrase Pierre?
Ben, la phrase, c'est rêver sa vie ou plutôt, mieux encore, vivre ses rêves.
Waouh, ça veut dire que vous avez réalisé vos rêves, c'est tout un programme,
non.
Ça. Alors, pourquoi ces mots-là?
Mais ça a l'air d'une plaisanterie, cette question. Mais en fin de compte, ça rejoint tout le sel de la vie, toute la question qu'on se pose sur qu'est-ce que je fiche sur cette terre, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, en quoi suis-je utile pour les autres, pour moi, enfin bon, voilà, ça rejoint vraiment une question essentielle, pourquoi suis-je né?
Est-ce que vous avez trouvé des éléments de réponse? Déjà, vous avez quel âge, Pierre, s'il vous plaît?
Eh bien, j'ai 75 ans, donc j'ai déjà beaucoup vécu.
Ah oui, et vous avez déjà trouvé des réponses, j'imagine? Sauf si vous êtes comme Gabin et vous savez que vous ne savez rien. Mais je ne sais pas. Dites-moi.
Je sais que je ne sais rien. Ça, c'est une certitude. Et plus cela va, et plus je sais que je ne sais rien. Néanmoins, la vie vous pousse à être confronté à différents défis. Et vous avez le choix entre les accepter ou les refuser. Vous dites oui, vous dites non, vous dites peut-être. Alors, comme je ne suis pas un courageux vertigineux, il m'est arrivé de dire non. Il m'est arrivé de dire peut-être souvent et quelquefois de dire pourquoi pas.
Alors le plus grand pourquoi pas, ça a été quoi?
Mais le plus grand pourquoi pas, ça a été finalement de suivre un petit peu ce que maintenant, avec le recul, j'imagine que j'étais comme enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait ses rêves. Parce qu'enfant, on vit ses rêves. On vit ses rêves parce qu'on n'a pas de passé, étant donné que quand on est enfant, on n'a pas long passé, par hypothèse, et le futur, on s'en fiche. Donc, on vit le présent. Et quand on vit le présent, on vit ses rêves. Alors, finalement, j'ai essayé, en grandissant, l'âge de raison passée, de trouver le moyen de vivre mes rêves en restant, non pas un enfant, mais en gardant un esprit d'enfance.
L'âme de l'enfant. L'âme d'enfant.
L'âme de l'enfant, oui. L'âme de l'enfant. L'âme de l'enfant qui, finalement, se situe en amont de l'âge de raison. C'est-à-dire de ce moment qui est un moment pathétique où, finalement, on commence à vous dire il ne faut pas prendre ses désirs pour les réalités.
Alors, c'était quoi votre rêve d'enfant, Pierre?
Alors, les rêves d'enfant, les rêves d'enfant, ils sont construits peu à peu. Quand on est enfant, on incarne les personnages qui meublent votre enfance. Quand on est garçon, on est un chevalier, on est un conquérant, on galope avec Alexandre le Grand, tous ces gens-là. Et puis, quand on est une fille, on est une princesse, une reine. Mais on l'est réellement. On le vit réellement comme tel. On se met une petite couronne comme ça de laurier sur la tête et on est un empereur romain. On prend une branche d'arbre, une brindille, et on a une épée. Sur un rocher, comme ça, dans la nature, on s'assoit et c'est un trône de roi.
Et vous, votre rêve à vous, c'était quoi? C'était le chevalier sur son cheval?
Alors, quand on est enfant, on veut être... Et quand on est enfant garçon, on veut être un conquérant. C'est à peu près le sort de tous les garçons. Les enfants mâles sont comme ça. On veut être un gagnant, un conquérant. On veut l'emporter. On veut aller très loin, très haut. On veut être très puissant. Et puis après, les choses changent. Et je crois que finalement, le plus grand défi, c'est que lorsque les choses changent de tout à tout et que se proposent à vous des propositions qui ne ressemblent pas tout à fait à vos rêves d'enfant et que vous sentez que ces propositions, elles répondent à ce que vous êtes vraiment, vous les acceptez. Ou bien vous les refusez. Moi, je les ai acceptés. Et comme ça, eh ben voilà, au bout de 75 ans de vie, je me dis que j'ai fait une dizaine de métiers, par exemple, différents, et que cela m'a enchanté, cela m'a charmé.
Dans lesquels, par exemple, Pierre?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on commence par faire plaisir à son papa et sa maman. C'est-à-dire que quand on est comme moi un fils unique et que les parents veulent que vous ayez une bonne situation, alors on va dans le sens qu'ils désirent et on fait ce qu'on appelle des métiers traditionnels. Moi, j'ai été un professeur, par exemple, ça rassurait mes parents parce que c'était quelque chose de cadré, de solide, de clair. Mais probablement que ça ne correspondait pas tout à fait à ce que j'étais parce que après, par la suite, j'ai été emporté dans une aventure qui, à une époque, qui proposait beaucoup de choses, m'a proposé différentes fonctions, différentes.
Alors ça tombe bien.
De produire des émissions de télé.
Je vous interromps un instant pour la suite de vos aventures. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Je vais lancer le journal dans quelques instants et je vous reprends tout de suite après le flash info.
Oui.
À tout de suite. Bien. À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Valérie Darmon en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et on retrouve Pierre pour la phrase de votre vie, rêver sa vie, mais mieux vaut vivre ses rêves. Alors on vous a quitté à l'instant professeur, qu'êtes-vous devenu ensuite? Vous nous avez dit que vous avez fait plein de métiers.
Oui, enfin, j'ai répondu, ce n'est pas forcément des métiers, ce sont des activités. J'ai répondu à des besoins, à un moment donné, j'ai rencontré un homme politique important, j'ai fait de la politique, et puis à un autre moment, j'ai rencontré un homme important en télévision, j'ai fait de la télévision, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré un homme de foi qui m'a bouleversé, je suis devenu écrivain. Et voilà, et ainsi de suite.
Et le fil rouge de vos rêves, c'est la rencontre, Pierre ?
Le fil rouge, oui, je crois que c'est ça, c'est la rencontre. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on oublie un petit peu tout le bienfait qu'on peut ressentir des rencontres. Parce que les rencontres, c'est à la fois une transmission entre des êtres humains, une transmission de sentiments, une transmission d'émotions, une communication, et presque c'est le chemin d'une fraternité entre les êtres humains. Et par conséquent, accepter de vivre ses rêves, c'est d'être toujours comme ça, ouvert un petit peu, à l'écoute des rencontres, sans a priori. de les accepter, d'aller vers elles. À un moment donné, je me souviens, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu envie de faire un tour du monde. Bon, j'avais le temps de le faire. Et je suis allé à la rencontre de femmes qui n'étaient pas très connues dans le monde entier, mais qui étaient des femmes remarquables, qui étaient elles aussi des gens qui avaient écouté probablement leur âme d'enfant et qui étaient en train de réaliser leurs rêves. Je me souviens de cette femme incroyable, c'était au Bangladesh, à Dhaka, un des pays les plus pauvres du monde. Elle avait été un mannequin célèbre, un top modèle, comme on dit aujourd'hui. Et elle était devenue la mère, la maman des tisserandes les plus misérables de son pays, le Bangladesh. Voilà quelqu'un qui avait suivi vraiment ses rêves. Et elle avait senti ça, elle avait à peine 32 ans. Elle venait de quitter les podiums de la mode. Et elle était partie dans un autre monde. Et comme ça, autour du monde, combien de gens ai-je croisé qui avaient choisi des vies abracadabrantes, des vies qui paraissent bizarres, mais qui répondaient par le choix qui avait été fait, qui répondaient à un rêve d'enfant. Je me rappelle de ce médecin à l'Amazonie péruvienne qui avait choisi d'aller soigner des drogués lourds avec des lianes sacrées, des chamans là-bas amazoniens, alors qu'il aurait pu faire une carrière dans un hôpital comme tout médecin qui se respecte. Hein. Mon Dieu, combien j'en ai croisé de gens qui avaient fait des choix invraisemblables d'apparence, mais qui répondaient à leurs rêves d'enfant. Donc, à un moment donné, on est devant un défi. Le défi, c'est de dire oui ou de dire non. Au milieu de ce défi, il y a ce que l'on appelle la peur de l'inconnu, la peur de lâcher ce que l'on maîtrisait. Il ne faut pas avoir peur. On n'a qu'une vie. Et il faut répondre à cette sollicitation de son âme d'enfant.
Et vous aviez...
Toujours répondre présent à ça.
Vous aviez les moyens de faire le tour du monde parce que, ok, répondre à ses rêves, effectivement, tous les entrepreneurs, les sportifs, les artistes le disent, hein, ils ont tous réalisé leurs rêves. Walt Disney disait garder à l'esprit que pour réaliser ses rêves, tout commence par un rêve. Mais il faut les moyens, non ? Vous les aviez ou vous les êtes donnés ? La question, c'est
forcément.
De se les donner ?
On se les... Mais non, mais pas forcément, on se les donne. On se les donne. Vous savez, le toubib qui va en Amazonie s'installer pour soigner les gens, à l'origine, il n'a pas de moyens. Le bonhomme qui faisait un métier à Paris, en France, quelque part, et qui choisit d'aller parce qu'il a la passion du pain et des croissants et des pains au chocolat, ouvrir une boulangerie-pâtisserie française à Barcelone, comme j'en connais, c'est pas forcément une question de moyens, c'est une question d'envie. Alors, on est bloqué par plein de choses. On est bloqué par sa famille, on est bloqué par son éducation, on est bloqué par ce que l'on doit faire ou pas faire. Enfin, plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de l'empêchement. Il faut transgresser de temps à autre un peu tout ça. Si on répond à une passion, mais encore une fois, si on n'a pas de passion qui vous fait bouger dans un sens ou dans un autre, il faut continuer sa vie qui peut être très belle sur le chemin qu'elle a pris.
Quel est le plus grand rêve que vous avez réalisé ? C'était ce tour du monde ?
Oui, mais c'est de faire... Moi, mon plus grand rêve, c'est de rencontrer le plus de personnes à admirer. Vous savez, aujourd'hui, on admire de moins en moins parce qu'on trouve disgracieux ou pénalisant ou je ne sais pas quoi d'admirer. Moi, je me rappelle vraiment avoir entendu ce vieux monsieur qui est Robert Badinter à 95 ans et qui dit ce qui me maintient en vie, ce qui me maintient dans l'enthousiasme, c'est ma capacité encore de pouvoir admirer.
Oui, c'est le fil de la merveille aussi de Christiane Singer dont on parlait il y a quelques jours sur l'antenne, effectivement.
S'émerveiller, admirer et s'émerveiller. S'émerveiller de rien et apprendre à s'émerveiller de tout. y compris des plus petites choses. Vivre ses rêves, c'est commencer par s'émerveiller des toutes petites choses qui sont autour de nous, qui ne coûtent pas un rond. Quand vous admirez le chant des oiseaux dans les arbres autour de vous, qu'est-ce que ça coûte ? Rien. Cet après-midi, j'étais en train de regarder des goélands en train de s'envoler sur la mer. Qu'est-ce que ça m'a coûté ? Rien. Tout ça, c'est un apprentissage de la beauté. Le monde est fait de beauté. Et c'est vrai que souvent, on a le sentiment, parce qu'on écoute des nouvelles abominables, que le monde n'est fait que d'horreur alors qu'il est rempli. Rempli à ras-bord de beauté également.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Pierre. Qu'est-ce que vous faites des contingences matérielles pour les auditeurs qui nous écoutent et qui parfois peuvent nous dire « Bon, la merveille, ok, mais bon, le quotidien, c'est quand même beaucoup moins fun que ça. » C'est une question de regard
oui,
sur la vie.
Je dirais, oui, mais je dirais « Oui, mais je les comprends tout à fait. » Et vraiment, je ne méconnais pas les difficultés qu'aujourd'hui on peut connaître le 15 du mois ou à la fin du mois où le frigidaire à moitié vide. Je ne le méconnais pas du tout. Je dis simplement qu'il ne sert à rien de simplement se concentrer uniquement là-dessus. Mais qu'il faut continuer à jouir de la vie pour tout ce qu'elle peut donner également. C'est ça un petit peu ce que je voudrais dire. Bien sûr que c'est extrêmement angoissant de ne pas pouvoir manger à sa faim, de ne pas pouvoir se soigner comme on le désire, de ne pas pouvoir avoir une vie décente simplement. C'est quelque chose d'insupportable. De toute façon, la pauvreté est insupportable. Il faut le dire, il faut le reconnaître et le dire. Cela n'empêche pas, et ça je l'ai vu dans beaucoup de pays extrêmement pauvres, cela n'empêche pas de goûter la beauté alentour, la beauté de l'instant, la beauté de l'enfant, la beauté de plein de choses qui sont autour de nous et qui ne demandent qu'à vivre et à émerveiller ceux qui les regardent, les entendent, les ressentent.
À quoi vous devez ce regard sur la vie, Pierre ? J'imagine que votre vie n'a pas été forcément tout le temps rose. À quoi et à qui, peut-être, vous devez ce regard sur la vie encore aujourd'hui à 75 ans ?
Toute vie, elle est remplie à la fois de merveilles et d'une quantité, pardonnez-moi, d'emmerdement. C'est vrai pour tout le monde. On est comme ça. La vie de chacun, c'est comme ça. Et ceux qui vous diraient « je traversais ma vie uniquement dans l'ouate », c'est faux, c'est un mensonge. On traverse la vie avec des déboires, avec des désagréments, avec des chagrins, avec des désespoirs, et aussi avec des enthousiasmes, avec des beautés et avec de l'espérance. Et c'est tout ça, ce maelstrom qui fait un être humain. Et alors, vous me demandez qu'est-ce qui m'a fabriqué comme ça ? Ben, ça, j'en sais rien. Peut-être un peu de génétique, ensuite peut-être une âme d'enfant, peut-être de la naïveté, peut-être le fait de regarder la vie, comme on dit souvent, de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide. Alors on pourra me dire, mais monsieur, c'est de la méthode Coué, vous vous persuadez que vous êtes heureux. Eh bien je m'en fous. Oui, je me persuade que je suis heureux, parce que je n'ai pas envie de me trouver à l'issue de ma vie, devant le moment où je dois partir, en train de me dire « j'ai raté ma vie ». Ça, c'est pas possible.
C'est quoi le rêve d'après, Pierre ?
Le rêve d'après, eh bien, ce serait pour moi un rêve que je ne verrais pas, que je ne sentirais probablement pas. Mais je serais tellement heureux que derrière moi, l'humanité qui suit ait toujours envie d'être l'humanité, c'est-à-dire d'être dans l'envie, dans le désir, dans l'enthousiasme, dans l'envie de créer, dans l'envie d'aimer, dans l'envie de l'amitié, de la main tendue, dans la générosité. Voilà. Je ne le verrai pas, évidemment, parce que même si les âmes continuent de vivre, certains le pensent, moi aussi d'ailleurs, évidemment. évidemment, je ne suis pas persuadé que cette âme-là puisse avoir des yeux, des oreilles pour percevoir tout ça. Mais je suis persuadé que je sentirai un tout petit peu quelque chose de cette envie qui dure.
Merci beaucoup, Pierre. C'est vrai que rêver est un moteur très puissant pour activer toutes les ressources nécessaires à notre réalisation et à la réalisation des rêves. Donc, merci de votre optimisme ce soir, vraiment. C'est une libre antenne très optimiste, hein, entre Gaëtan, entre Bastien.
Mais la radio, voilà. La radio est quelque chose de fondamentalement optimiste. J'adore la radio, beaucoup plus que les autres médias. C'est le média du contact humain, de la main tendue et de l'ouverture. Par conséquent, chapeau. Continuez.
Eh bien, grand merci. Vous venez rajouter les mêmes propos que Gaëtan. C'est notre moment ce soir. Un grand, grand merci à vous, Pierre. Et bonne continuation dans tous ces rêves à réaliser encore et encore. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup. À bientôt.
Du rêve à la bonne étoile de M, on n'était pas très loin sur la libre antenne. Et j'en profite pour dire merci à Hélène, 87 ans, à Najette aussi, à Isa, pour tous les messages très très doux et bienveillants que vous nous laissez en ce moment, soit en nous appelant au 3921, soit par SMS. Vraiment un grand merci parce que sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Un grand merci à vous. Et j'accueille Marie. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous les auditeurs et notamment à vos collègues, à vos collaborateurs.
À Cindy, à Adrien ce soir et à Guillaume,
exactement,
notre réalisateur.
Alors, tout le monde, à tout le monde.
Et je crois que vous voulez intervenir suite au témoignage de Martine de Caen de vendredi soir. Martine qui voulait venir en aide à sa cousine qui avait dû placer ses deux parents en EHPAD où ils sont malheureusement décédés. C'est bien cela, Marie ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors j'espère que je ne vais pas plomber un petit peu ce qui a été dit. Je vais essayer de le dire le plus sereinement possible parce que c'est quelque chose de compliqué, mais à la fois ça peut être très doux en même temps. Et je voulais parler de l'assistance. Excusez-moi, j'ai un retour, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. J'ai un retour dans le téléphone, mais c'est pas grave, je vais faire avec.
D'accord, Guillaume va essayer de régler ça.
Je m'entends. Vous savez, je m'entends. Moi, je voulais parler de l'assistance du dernier chemin de vie, de pouvoir le décider. J'aimerais que cette loi, malheureusement, passe en France, parce que je me disais justement, quand j'ai écouté son histoire très touchante, et en plus avec maintenant, bon, on parle de beaucoup de choses. Et je me disais que ce serait chouette de pouvoir décider de sa vie, de ce que l'on veut faire de sa vieillesse, suivant tout à chacun, hein, avec bien sûr naturellement des lois. Et je trouve ça dommage que ça se fasse dans notre pays et que chez nous, ça ne soit toujours pas accompli.
Vous voulez dire qu'on est responsable de la manière dont on souhaite partir ou mourir et que
voilà. Par exemple, je trouve formidable que lorsque l'on a des animaux, enfin moi je suis une adepte des animaux, hein, j'aime beaucoup les animaux, et quand on voit qu'ils peinent, qu'ils sont en souffrance et qu'on a cette chance de pouvoir les libérer. Et de toute façon, ce sont des décisions assez dures. Et quand on le fait, c'est parce que vraiment, on n'a pas vraiment le choix. Et on a un diagnostic par les vétérinaires qui nous disent, voilà, c'est tout. La bête, elle souffre, il faut cesser. Et moi, je me dis, c'est dommage. Si on avait cette loi qui nous permettait de décider, hein, de pouvoir abréger nos souffrances, on pourrait aussi également, suivant les pathologies, suivant les âges, on pourrait aussi faire des dons d'organes, hein, parce qu'on peut très bien avoir une assistance et faire un don d'organes avant de partir.
Ça, on peut toujours le faire. Il est même recommandé de le faire et d'avoir avec soi une petite carte qui spécifie que s'il arrive quelque chose, bien évidemment, nous sommes d'accord pour les dons d'organes. Ça, on peut déjà le faire en France. C'est même recommandé.
Oui, tout à fait. Mais je pense que si vous voulez le fait, alors moi, c'est moi qui le pense comme ça, qui le vis comme ça. Mais je pense que si on avait cette loi qui nous permettrait de choisir notre départ pour raison X, hein, multiple, je pense que ben, il y aurait beaucoup moins de suicides, il y aurait beaucoup moins de drames, parce que malheureusement, enfin, moi j'ai vécu justement en 2020, j'ai perdu ma sœur d'un cancer. Et j'ai mon père qui est parti de chagrin. Et vous voyez, ben quelque part, il est resté 6 mois dans le chagrin. Il a fini par partir de chagrin. Hein.
Et c'est-à-dire qu'il s'est laissé mourir, vous voulez dire ?
Il s'est laissé mourir. Il s'est laissé mourir.
Il a cessé de s'alimenter, il a cessé de
s'occuper
de lui.
En fin de compte, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je vous le dis, je suis désolée, je ne vous entends pas bien, j'ai monté le son, mais moi, je n'ai plus de retour. Et je vous entends.
Nous, on vous entendrait bien. On vous entendrait bien.
D'accord. Moi, je vous entends très bas, mais c'est pas grave. J'arrive quand même à entendre. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai peut-être du mal à m'exprimer. Parce que, vous voyez, j'ai un retour. Et bon, bref, c'est pas grave. On va faire avec. Et donc, mon papa, oui, il est parti de chagrin. Et en fin de compte, il a eu un problème aux poumons. Et les poumons, ben, c'est la respiration. Et il a fait une hémorragie au niveau des poumons. Et donc, quand la situation est arrivée, il était en réa et le médecin m'a appelé pour me dire que voilà, que ça n'allait pas bien et puis qu'on pouvait éventuellement faire des soins plus poussés. Et je savais que de toute façon, mon père ne pouvait pas vivre sans ma sœur, c'était son adoration et que de toute façon, c'était son désir de partir. Et donc, le médecin m'a juste demandé, en gros, l'autorisation de le sédater et de le laisser partir tranquillement. Donc, moi, j'ai réussi à... Parce qu'il était dans un semi-coma. Donc, j'ai réussi à communiquer avec lui par le pouce pour lui demander ses volontés. Et j'ai dit non, il faut le laisser partir. Donc, je trouve que c'est dommage de laisser ce poids sur les épaules, par exemple, d'un médecin... Sur les épaules, par exemple, vous voyez comme cette jeune femme qui parlait de ses parents qui ont été mis en EHPAD, parce que bon, là, il y a une question aussi de génération, mais je veux dire, maintenant, par exemple, moi, à mon âge, j'ai déjà discuté avec ma fille, en l'occurrence, que je ne voulais pas...
D'acharnement thérapeutique.
Exactement, voilà. Je lui ai dit que si le jour où je sentais que j'avais envie de me laisser glisser, pour le repos, je préfère. Elle m'a dit, écoute maman, vraiment, si un jour tu sens que tu es au bout, parce que voilà, hein, on n'a pas tous des vies super géniales. Quelquefois on peut être usé par le travail, on a des pathologies aussi. Qui ne se voit pas, on raconte pas toujours nos bobos, enfin bref. Et moi, je sais que je souffre de mon corps, je résiste, hein, je fais avec, je vis avec, voilà. Bon, d'ailleurs, j'ai même perdu mon emploi à cause de ça, parce que je n'étais plus assez rentable, mais bon, je rebondis. Hein, et je me dis, le jour où vraiment je ne pourrai plus, j'en ai discuté avec ma fille et je lui disais si vraiment j'en pouvais plus je mettrais fin à mes jours. Elle m'a dit mais maman ne fais pas ça, si tu as envie vraiment de partir, eh bien fais-le et que je puisse te dire au revoir. Et je pense que ce serait vraiment ce serait vraiment intéressant que le gouvernement se penche sur ce problème, parce que je trouve que ça sauverait bien des vies, ça allégerait bien des consciences.
Je crois qu'il est déjà important, Marie, d'oser aborder ces sujets du vivant. C'est comme les obsèques. Souvent, on n'a pas envie de parler de ces sujets-là, comme peut-être par superstition, peut-être par peur. Et en fait, aborder tous ces sujets, ben, comme le don d'organes, comme l'acharnement thérapeutique, comme effectivement le fait qu'on peut perdre pied à un moment donné, au détour d'un accident de la vie, ben, c'est important peut-être d'en parler de son vivant. Avec ses proches.
Tout à fait. Et si vous voulez, donc c'est pour ça. Enfin, c'est pour ça que j'étais un petit peu. J'avais une certaine gêne parce que c'est vrai que les témoignages étaient charmants ce soir. C'était agréable. C'était joyeux. C'était. Alors je me disais, mon Dieu, moi j'ai plombé l'ambiance avec mon témoignage. Mais si vous voulez, c'est pas. Moi je le vois pas. Je vois pas, si vous voulez, cette situation comme du négatif. C'est, en plus, si vous voulez, je me suis un peu renseignée, j'ai regardé un peu comment ça pouvait se passer. Et franchement, c'est génial parce que les gens vous accompagnent, vous êtes suivis par des psys. Enfin, je veux dire, on fait pas ça comme ça n'importe comment. Il y a des règles, on vous enlève pas la vie comme ça. Et je trouve que pour l'entourage, moi, j'ai vu des témoignages. Et franchement,
c'est plus
je
doux.
Trouve que
c'est
pour faire
doux.
Le deuil, c'est encore plus c'est encore plus, comment dire, plus apaisant, si vous voulez. C'est moins, ça torture moins. C'est, vous voyez, comme quand par exemple, j'ai laissé partir mon père de cette façon. Bon, j'ai réussi à le faire parler avec le pouce en disant oui, non, oui, non. Mais je veux dire, bon, ben voilà, je l'ai aidé. Si je n'avais pas été là, peut-être que il se serait acharné, vous voyez, ça aurait
alors
été dommage.
Alors, les médecins sont de plus en plus nombreux tout de même à demander, à avoir ce sens, hein, quand même, cette déontologie de demander quand même, quand ils voient qu'on est dans les extrémités, de dire, est-ce qu'on le laisse tranquille ou au contraire, est-ce que vous connaissez le positionnement de la personne, d'où l'incitation à en parler de son vivant. Ils sont quand même de plus en plus nombreux à prendre en considération cette fin de vie, quand même.
Oui, mais voyez, moi, ce que j'aimerais, j'aimerais, bien sûr, je peux pas, voilà, j'aimerais, c'est malheureusement, ça relève du gouvernement, c'est pas moi qui fais les lois, mais je veux dire, je trouverais vraiment très intéressant et très louable pour l'être humain de pouvoir décider et de noter, et de que ce soit noté, soit chez un notaire ou autre, voilà, qu'on puisse gérer, dire, moi je veux stopper à tel moment, quand on le sent, quoi. Parce que de toute façon, dans notre corps, on le sent. Moi je sais que personnellement, voilà, j'ai des pathologies et je sais que y a un moment, ce sera plus supportable. Et je ne veux pas infliger à ma fille l'insupportable de me voir souffrir, de me voir à quoi bon. Parce que je veux dire, si c'est pour rester dans un lit et souffrir, je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Je veux dire, il n'y a pas de.
C'est une question aussi de responsabilité, de permettre à certaines personnes de se sentir complètement responsables de la manière dont ils vont partir, comme de la manière dont on vit, en fait.
Oui,
mais c'est presque infantilisant de ne pas laisser, peut-être, je ne sais pas, c'est une piste à explorer. De ne pas laisser les gens disposer de leur mort comme ils ont disposé de leur vie, en fait.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mais comment vous expliquer J'ai l'impression que je suis maladroite.
Mais c'est aussi difficile, en vous écoutant, je me dis que c'est aussi très difficile pour les proches à entendre. Ça adoucit peut-être les départs, c'est ce que vous avez évoqué, mais ça peut être aussi très difficile pour les proches d'entendre maintenant il faut me laisser partir.
Vous voyez, par exemple, moi j'en ai discuté, j'ai une grande fille qui va sur une trentaine d'années, et j'ai toujours discuté, on a toujours discuté sans tabou, de tout. Par exemple, une fois, j'en ai discuté avec elle et elle m'a dit, tu vois, maman, moi, je serais plus pour t'accompagner dans la douceur, te laisser partir dans la douceur et pas la souffrance, comme les animaux, par exemple. Vous voyez, quand on accompagne, moi j'ai eu un chien, j'ai dû la faire partir. Bon, ben, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, je lui ai parlé. Ben, écoutez, c'était un moment. Certes, ça a été difficile, mais c'était un moment inévitable et on lui a sauvé la vie parce que sinon, j'aurais pu très bien la laisser souffrir. Mais c'est insupportable de voir ça, c'est insupportable. Il y a plein de gens, quelquefois, qui demandent à partir et qui, malheureusement, on ne peut pas partir parce qu'on est bloqué par ces lois. Alors, soit il faut aller en Belgique ou soit il faut partir en Suisse. Au Canada, et voilà, et quelquefois, malheureusement, soit on n'a pas les finances pour le faire, donc c'est ça que je reproche, vous voyez, parce qu'on n'a malheureusement pas tous les finances pour accéder à cette situation-là, et quelquefois, malheureusement, ça donne justement, ça provoque des suicides, ça provoque, et je trouve ça...
dommage.
Abominable, je trouve ça abominable.
En fait, il est question de dédramatiser la mort.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Et je veux dire, moi, vous voyez, par exemple, je le vois sur un chemin, tranquille, bienveillant, et je pense que ma fille sera beaucoup plus soulagée de me voir partir dans la bienveillance que de partir dans la souffrance.
Et il est toujours important de pouvoir dire au revoir aussi. Non, c'est vrai que quand on choisit, on s'accorde ce temps-là, ce temps d'échange.
Tout à fait. Parce que franchement, c'est déjà quand on perd quelqu'un par les accidents, c'est déjà très douloureux. Donc je me dis, si on nous donnait cette chance de pouvoir en décider sans en abuser, bien sûr, parce qu'il pourra toujours y avoir des abus, mais on aura toujours des garde-fous autour de nous. Je veux dire, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est à tous les niveaux. C'est comme en conduite. Quand on a un feu rouge, on se stoppe. Après, on nous donne le feu vert. Je dirais que ça sera pareil. Il y aura des clauses bien définies. Je veux dire, on ne va pas vous accorder de quitter la vie comme ça. On sera vu par des professionnels. Enfin, mais moi, je trouve que ce serait vraiment... Et ça éviterait toutes ces peines quand j'entends justement des auditeurs souffrir de se dire « Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai mal fait ? Est-ce que j'ai eu raison ?» Vous voyez, moi, par exemple, le médecin concernant mon père m'a demandé... Si je voulais le transporter sur l'île. J'ai dit non, monsieur, non. Mon papa est chagriné d'avoir perdu sa fille. Il veut partir. Il faut le laisser partir maintenant, tranquillement. Voyez. Et moi, c'est un peu le sujet que je voulais aborder. Enfin,
bien, je vous remercie beaucoup, Marie, de l'avoir abordé. Christiane aussi, d'ailleurs, par SMS, nous dit qu'elle est d'accord avec vous et elle vous remercie d'avoir osé le dire sur la libre antenne. Ces sujets-là, c'est aussi la libre antenne, bien sûr, même si ce soir, on a démarré avec Gaëtan et Pierre et Bastien sur des notes optimistes, mais la vie, c'est exactement les deux. Hein, c'est l'ombre et la lumière. Donc, un grand merci, Marie, de votre témoignage. Un grand, grand merci de nous écouter.
Juste,
oui, dites-moi.
Et juste, si je peux me permettre... Alors, on dit toujours, j'ai demandé à votre collaborateur, j'ai dit, est-ce que je pourrais dire une petite finalité? Alors, je vais oser le dire, parce que c'est vrai que c'est difficile d'oser. Donc, on jette une bouteille à la mer. Alors, moi, je vais dire, je jette une petite bouteille à Europe 1. Si un auditeur a été sensibilisé par ma façon de m'exprimer ou autre, eh bien, je serais ravie. Je laisse mon numéro en contact
avec plaisir.
Une personne, parce que je veux dire, j'ai eu un parcours, moi, je n'ai pas trop eu de chance, on va dire, affectivement, mais je crois toujours en la vie, je suis une battante, et je me dis, sait-on jamais. Voilà, je ne suis
pas
réseau.
Vous avez raison.
Je suis un peu vieille France, mais je ne suis pas trop dans les réseaux et tout, mais. Voilà, je crois au chemin de la vie.
Aux
belles rencontres, comme disait d'ailleurs ce monsieur avant nous,
Pierre.
Que les rencontres, c'est un chemin, ça fait vivre tout le monde, c'est chouette. Et voilà, je veux dire, je voulais terminer sur une note vraiment positive.
Oui, je voudrais citer un SMS de Pauline, qui a tout à fait raison de nous le notifier. La loi Leonetti permet actuellement un accompagnement de fin de vie palliant à l'immense majorité des cas de fin de vie, prenant en compte les désirs personnels. Donc, je voulais aussi le spécifier, elle a raison de me le rappeler.
Je la remercie infiniment.
Et votre appel a été entendu. Nous avons votre numéro de téléphone. Un grand merci, Marie, de votre écoute et de votre témoignage. Et je vous souhaite une très belle soirée.
Merci à votre gentillesse et à votre écoute. Et merci de m'avoir laissé m'exprimer. J'espère que je n'ai pas été trop laborieuse.
Absolument pas. Au revoir.
Au revoir.
Light My Fire, Astrud Gilberto sur l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Et maintenant, j'accueille Émilie. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à l'étranger. Vous êtes à quel endroit ?
Je suis en Écosse, à Édimbourg, en vacances.
Oui, très bien. Ben, au moins, vous n'avez pas trop chaud, je pense.
Exactement. Exactement.
Vous passez à travers les mailles du filet. Alors, que puis-je
faire
pour vous ?
Tout à fait, même plus cet après-midi, pour tout vous dire.
Ah ben voilà. Que puis-je faire pour vous ce soir ? Dites-moi.
Alors moi, je voulais témoigner de ma double vie, puisque en fait, donc là, je suis en vacances, mais ça n'a rien à voir. Je travaille à la SNCF, dans un service de ressources humaines. Et en parallèle de ça, depuis une petite dizaine d'années, un peu moins, 9 ans, j'écris des livres en maison d'édition.
Donc voilà. Vous incarnez parfaitement l'émission d'Isabelle Morizet, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, dont je parle souvent, parce que je suis fan. Et vous incarnez aussi le fait que nous soyons des êtres totalement pluriels.
Tout à fait, je confirme.
Alors comment ça s'est passé ? Comment vous avez installé cette double vie ?
Sur la partie SNCF, je n'y reviendrai pas parce que c'est une trajectoire tout à fait normale, professionnelle, quand j'ai intégré l'entreprise, il y a 15 ans maintenant, un peu plus. Pour la partie de l'édition, en fait, j'écrivais un peu dans mon coin. Et un jour, une amie m'a envoyé un lien vers un concours que la maison d'édition Harlequin lançait pour découvrir des nouveaux talents français, puisqu'à l'époque, Harlequin ne faisait que de la traduction d'ouvrages, notamment anglo-saxons et surtout américains, vers français. Et en fait, j'ai participé pour prouver donc à cette amie que non, j'avais pas du tout le talent, ni la plume, ni l'envie finalement d'être éditée, parce que moi j'avais déjà ma vie professionnelle qui était déjà lancée.
Sur les rails, c'est le cas de le dire.
Sur les rails, oui, je vais le dire, mais bon, c'est un peu facile. Et en fait, j'ai fait ce concours un peu, j'ai envie de dire, par-dessus la jambe, à l'emporte-pièce, pas vraiment convaincue par le truc. Je l'ai un peu oublié aussi, parce que j'ai envoyé le texte, après j'ai un peu zappé. Et puis, quelques semaines plus tard, en fait, c'est Harlequin qui m'a écrit pour me dire « Félicitations, vous avez gagné, il y avait 5 ou 6 gagnants à l'époque, je ne sais plus, et vous avez gagné. » Voilà. Et après, ils m'ont demandé d'autres manuscrits, et j'en avais plusieurs, donc j'ai envoyé. Pareil, j'y croyais pas trop, parce que le manuscrit que j'ai envoyé était un truc un peu hors norme, très très épais, très très touffu. Et en fait, l'éditrice m'a rappelé 3 ou 4 jours après en me disant « Non, mais c'est bon, on vous signe, et on va faire ci, on va faire ça, voilà. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et donc, vous travaillez à peu près 24 heures sur 24, ou comment ça se passe?
Actuellement, je ne travaille pas parce que je suis en congé maternité. Oui, en fait, je travaille la journée, j'ai ma journée de travail comme tout le monde, faire du 8h, 17h, 18h. Et puis le soir, par contre, j'écris. Alors, j'écris pas la nuit, je précise, parce que la nuit, j'ai quand même besoin de dormir. Mais j'écris le soir, genre les coups de 21h jusqu'à minuit, 1h, et après, je dors. Voilà.
Ah oui. Et vous avez un bébé en plus. D'accord.
Alors, j'ai déjà 2 ados et j'ai un bébé là maintenant. Oui,
ah oui, donc vous êtes une hyperactive ?
Oui, oui, je le pense. J'ai pas été diagnostiquée comme telle quand j'étais gamine, mais je pense effectivement qu'il y a un fond d'hyperactivité. Voilà.
Alors, Harlequin, dans mon souvenir, c'était des romans un petit peu à l'eau de rose, non ? Un peu Barbara Cartland. C'est un univers que vous aimez bien, les prêches charmants, tout ça. Enfin, les prêches charmants modernes, hein, bien sûr.
Ça a cette image, c'est vrai, un peu surannée et un peu très Barbara Cartland. Hein. D'ailleurs, quand j'avais quelques articles de presse, c'était un peu là-dessus le mode de comparaison, qui est plutôt flatteur, parce que je me souhaite la même
chose. Ça c'est sûr, elle a construit un empire.
Oui, et puis c'est une femme qui a écrit pour survivre, hein, parce qu'elle avait plus que ça. Hein, donc je me souhaite à la même carrière. Pas la survie, mais en tout cas la carrière. Ça a cette image un peu surannée. Mais en fait, à l'époque où Harlequin a lancé le concours, il y avait surtout la vague 50 nuances de grec qui était en train d'arriver. Et du coup, il y a eu un effet de mode très très fort, et les portes des maisons d'édition se sont ouvertes plus largement à ce type de littérature, qui est la romance. Même les grandes maisons, hein, de type Lattès, Cécilion, d'ailleurs Lattès, c'était eux qui publiaient 51 degrés. Voilà, donc c'est pour... en fait, il y a eu un effet un peu, je pense, mode et d'aspiration.
Donc roman érotique un petit peu, ou alors à l'Oudreau, c'est pas tout à fait la même chose?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose, même si ce sont des cousins, on va dire, très proches. Maintenant, très clairement, pendant des années, effectivement, ce type de roman, vous aviez des scènes tout à fait standards, des scènes d'amour, mais pas vraiment de scènes, on va dire, de sexe. Maintenant, il y en a, très clairement, beaucoup, parfois. Parfois trop, peut-être, je ne sais pas. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut y aller avec parcimonie sur ce genre de choses, parce que moi, je ne suis pas une grande adepte de la littérature érotique. Déjà parce que c'est pas mon truc, et parce que ça demande beaucoup de talent à faire, en fait, d'écrire ce genre de scène, ça demande vraiment une dextérité très particulière, et moi c'est pas franchement ma tasse de thé pour le coup. J'ai même plutôt tendance à reculer devant l'obstacle, quoi. C'est vraiment le truc que j'écris et presque en dernier, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des recettes à appliquer lorsqu'on écrit des romans comme ça, un peu type Arlequin? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous donne, au départ, on vous donne un cadre très précis avec, trahison, adultère, grand amour, tomber amoureux, coup de foudre, je ne sais pas comment ça se passe.
Non, aucunement, je sais qu'il y a des légendes urbaines sur ce sujet-là, sur le fait qu'il y aurait une espèce de liner où on doit se dire qu'à la page temps, ils doivent s'embrasser, et à telle page, ils doivent rompre, et à telle page, se réconcilier. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu, ce truc-là. Moi, en fait, j'écris ce que j'ai envie d'écrire, sur des thématiques parfois pas du tout. Ça dépend vraiment de mon état d'esprit. J'ai écrit sur plein de choses, sur l'illettrisme, sur la maladie d'Alzheimer, par exemple.
On est loin de l'univers romantique.
Ah oui, tout à fait. Mais il faut avoir en tête que, en tout cas de mon point de vue, la romance est une forme de reflet de la société. C'est-à-dire que pendant très longtemps, effectivement, dans les années 50-60, c'était la femme, l'homme, un couple normal, et puis très souvent la femme se révélait dans le regard de l'homme. C'était très souvent ce schéma-là qui était appliqué, où l'homme était un peu le Pygmalion et la femme se révélait auprès de lui. Maintenant, c'est plus tout ce cas-là. Vous avez déjà des couples homosexuels, des familles recomposées, des femmes qui ont divorcé, des femmes accomplies, des hommes qui le sont moins, des enfants, pas d'enfants, enfin voilà, c'est tout à fait diversifié, et c'est le reflet vraiment, en tout cas, de ce que vivent les gens au quotidien et de ce que vous vivez autour de vous avec vos proches ou votre famille. Donc voilà, donc ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Dieu merci d'ailleurs, parce que ça va un peu dans le bon sens, pour moi en tout cas. Voilà. Mais oui, j'écris ce que je veux, pour le coup. Voilà.
Émilie, vous allez dans le sens du témoignage de Pierre tout à l'heure, qui vraiment nous disait presque un hymne à la vie, là, en disant presque une boulimie de vie. Vous êtes en train de témoigner du fait que si on est pluriel, eh bien on y va et on exploite toutes ces parties de notre être.
Je pense intimement que déjà on n'est pas fait pour avoir une seule vie longue et monotone. Preuve en est, c'est que à l'époque de nos parents et grands-parents, quand on rentrait dans une entreprise, on y restait très très longtemps. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas avec des gens qui changent beaucoup. Et régulièrement. Et maintenant, vous avez plein de gens qui, comme moi, ont une vie professionnelle, je veux dire, tout à fait standard et normale, et qui, à côté, ont une passion. Alors, moi, j'ai l'écriture, mais pour d'autres, ça va être, je ne sais pas, la peinture, la mosaïque, le sport, voilà. Et je pense que maintenant, on peut se permettre, et je pense que la vague Covid a aussi amplifié ce système-là, le fait de vouloir vivre à tout prix un maximum de choses et d'en profiter un maximum. Voilà, je pense qu'on est... Ça demande une certaine organisation, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est faisable. Voilà.
C'est ça, et vous voulez me dire que c'est faisable et qu'il faut y aller, en fait, c'est ça?
Oui, il faut y aller, ouais, il faut y aller. Et puis on ne risque pas grand-chose, en fait. Voilà. Et on se casse le nez sur quelque chose, on apprend quand même quelque chose. Donc voilà, et moi, la partie un peu créative que j'ai moins dans mon travail, qui est un peu plus standardisé, je l'exploite là-dedans, et c'est un peu ma soupape aussi. Voilà.
Et le prochain livre, c'est quand?
Normalement, d'ici Noël, si j'arrive à le finir. Je suis en train de le finir là actuellement, pendant mes vacances en Écosse. Voilà.
Et ça traite de, en un mot? Ça traite de quoi?
Pour le coup, ça sortira pour Noël, donc ce sera une romance autour de Noël et autour de tout ce qui est cet environnement de sapins, de cadeaux, etc. Et c'est en fait la suite d'un précédent roman que j'ai écrit l'an dernier autour d'une même thématique qui était un groupe de rock. C'est un peu
très bien.
La suite.
Écoutez, un grand merci d'avoir témoigné, de terminer cette libre antenne sur une note d'optimisme. Bonnes vacances à vous, Émilie.
Merci beaucoup. Merci. Très bonne fin de soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Ainsi s'achève donc votre libre antenne de ce soir. Je vous retrouve, chers auditeurs, vendredi prochain, même heure, même fréquence sur Europe 1. Et comme à mon habitude, le dimanche soir, après tous vos messages si gentils, si bienveillants au standard, à l'antenne, par SMS, c'est à mon tour de vous faire un petit cadeau. Alors ce soir, on a parlé de rêve avec Pierre, de passion avec Gaëtan, d'amour inconditionnel pour Bastien. Et moi, je vous propose de terminer en évoquant le miracle. Pas n'importe lequel. Le fantasme du miracle. Alors je m'explique. Imaginons que vous ayez un problème, c'est-à-dire comme nous tous en fait. Eh bien, il suffit d'imaginer notre avenir sans ce problème et de nous représenter ce que seraient dans ce contexte nos perceptions, nos actions et nos pensées. Imaginez juste que vous vous réveillez demain matin et que le miracle a eu lieu pendant la nuit. Alors votre problème a disparu, quel que soit le problème. Quels seraient alors les signes que les choses ont changé? Qu'auriez-vous envie de faire? L'effet produit est efficace parce qu'il relève de l'autosuggestion qui fait que vos attentes changent d'orientation, tout simplement. Alors cette technique, elle est appelée « fantasme du miracle » par le thérapeute américain Steve DeShazer. Voilà, je vous laisse le pratiquer autant que nécessaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.